On ne peut pas vivre que de la publicité. On ne peut pas vivre que de la monétisation de ces contenus. Il faut mettre en œuvre d'autres modèles économiques divers de façon à alléger sa dépendance vis-à-vis d'une ou autre source de revenus.
Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 102. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Cet entretien qui suit est sur un vrai sujet de fond, le rôle et l'avenir des médias. Mon invité, c'est Vincent Perrine, PDG de OneIFRA, l'Association mondiale des journaux et des éditeurs des médias d'information. Elle représente plus de 18 000 publications, 15 000 sites web et plus de 3 000 sociétés dans plus de 120 pays. La mission de OneIFRA est d'être le partenaire indispensable des journaux et de l'ensemble de l'industrie de l'édition à travers le monde. En matière de défense et de promotion de la liberté de la presse, d'un journalisme de qualité et de l'intégrité éditoriale, ainsi que pour l'essor des entreprises et le développement des techniques. Dans cet entretien avec Vincent, nous discutons du rôle important de la presse, la disruption et adaptation nécessaires face aux diverses pressions, les modèles économiques et bien plus. Vincent Perrine, ça fait des années qu'on se connaît. En tout cas, virtuellement, c'est un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Tu es le PDG de OneIFRA, qui permet et qui vraiment lutte pour garder la liberté des médias. C'est comme ça que je le comprends. Dans tes mots, qui es-tu, Vincent?
Merci, Minter, de m'inviter à ce podcast. Alors, qui je suis? Je suis un passionné des médias. Parfois, c'est difficile à vivre aujourd'hui, compte tenu des tendances de marché, on se pose des questions sur notre avenir, mais je pense que la presse, hein, en particulier l'information, a un tel rôle dans la société que je pense qu'on ne peut pas vivre sans. Et donc, c'est ma vie depuis 30 ans. Travailler pour des éditeurs de journaux, quand on dit journaux, je ne parle pas du support, ce sont des éditeurs de presse d'information, qu'ils soient sur mobile, sur l'Internet, sur le papier. Au travers de différentes fonctions en France, à l'international, en Suisse, en Espagne, en Allemagne. J'ai fait un petit bref passage dans un cabinet ministériel également en France. Et depuis 7 ans maintenant, je dirige donc l'Association mondiale des éditeurs de presse d'information, OneIFRA.
Excellent, excellent parcours, Vincent. Alors, tu es PDG depuis 2012. Avec cette expérience-là et de toute façon avec tout ton parcours, comment est-ce que tu décrirais l'évolution de ce qui s'est passé on va dire de 2012 à 2020 pour être plus concret?
Ben, entre 2012 et 2020, il s'est passé quelque chose qui a eu des conséquences énormes pour l'ensemble des professionnels des médias et notamment ceux pour lesquels je travaille, avec qui je travaille, donc les éditeurs de presse quotidienne essentiellement. C'est que dans notre secteur, puisque c'est aussi une des missions de notre organisation, c'est de monitorer les tendances du marché, en 2015, pour la première fois de l'histoire de cette branche d'activité, je parle économique, les revenus issus des lecteurs ont dépassé ceux issus de la publicité. Et ça a été, c'était un acte déclencheur, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'ensemble de nos partenaires, de nos éditeurs se sont rendus compte que finalement le métier c'était vraiment de faire du journalisme. Et j'ai le sentiment, pour avoir parcouru quand même pas mal de maisons de presse au cours des 30 dernières années, que ça a complètement changé la donne. Donc, il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, effectivement, le marché publicitaire, malheureusement, ne suffit plus à faire fonctionner et à faire vivre des rédactions de 200 personnes, des outils industriels qui sont très lourds, des réseaux de distribution qui sont également très lourds et très coûteux, et qu'il faut se recentrer sur nos audiences, nos communautés. Alors, c'est à l'échelle de la presse, quand on imagine que ce secteur, en fait, les premiers journaux ont été créés, je ne sais pas, enfin, on parle de Théophraste Renaudot, etc., quand on pense que le modèle économique dans lequel on vivait jusqu'à présent, donc cette génération d'éditeurs et de journalistes vivait jusqu'à présent, est née dans la deuxième moitié du 19e siècle, le jour où des éditeurs un peu malins se sont dit « tiens, mais je touche un public assez large, Et plutôt que simplement vendre mon journal, je vais mettre de la pub dedans. Et ça a été la construction d'un écosystème économique très puissant. Les éditeurs les plus futés et les plus affûtés faisaient des marges, quand on est investisseur, c'est important, de l'ordre de 30 à 40%. C'est un secteur très, 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 très riche et très rentable. Les premiers signaux, évidemment, de la crise publicitaire dans laquelle on est rentré, date pas de 2015, ce tipping point où d'un seul coup on est passé d'un secteur orienté vers le lecteur, parce que c'est là où les ressources qui nous font vivre et qui font vivre nos rédactions et qui nous permettent de continuer à faire notre métier en tant qu'éditeur de presse indépendant et de faire du bon journalisme, on dépassait celle de la publicité. C'est évidemment né de l'émergence des grandes plateformes numériques, de leur capacité extraordinaire à mettre en œuvre des solutions globales qui servaient en même temps des clients locaux. Et donc, tout ce que les éditeurs appellent du siphonnage, mais je le dis pas, il n'y a aucun jugement de valeur. Ils ont été plus futés que d'autres, et donc, ils ont remporté un petit peu la partie par rapport à ça. Ça s'est accéléré. Et 2015, ça a été vraiment le moment historique où nous, d'un point de vue mondial, on a mesuré qu'effectivement, on passait d'un modèle à un autre. On passe d'un modèle, en fait, orienté produit. On vendait un produit, en fait, vers un modèle orienté vers l'expérience des utilisateurs. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, je veux dire, c'est très difficile à vivre. C'est difficile à vivre pour moi en tant que patron d'association internationale qui, évidemment, compte sur le soutien et les recettes que nous générons auprès de nos clients éditeurs de presse, parce qu'évidemment, ils ont moins de ressources qu'auparavant. Mais en fait, c'est un retour aux fondamentaux. C'est un retour aux fondamentaux dont on doit se réjouir. Donc, et là, je pense que depuis 2015, il a fallu 2 ans pour que vraiment il y ait une prise de conscience vraiment globale, pas uniquement que les grandes marques, le New York Times, le Washington Post et les autres, le Wall Street Journal ou le Financial Times, qui ont été les premiers à vraiment gérer cette transition, mais je le constate maintenant auprès de tous les éditeurs, de presse locale, dans le monde entier.
Tu as dit quelque chose qui me frappe, c'est on revient au basique du journalisme. Et là-dedans, moi, j'ai en tête. Enfin, c'est quoi le journalisme? Parce qu'en fait, je ne le lis pas dans ma lecture, parce que je ne suis pas du métier, comme étant pour une audience. Je comprends plutôt la notion d'un journaliste comme étant aller chercher ce qu'il faut et espérant que le lecteur le lit.
Ouais. Et je pense que c'est une combinaison des deux, mais jusqu'à présent, effectivement... Et c'était l'avantage de travailler dans ce genre d'organisation que je sers aujourd'hui, c'est d'être sur une tour de contrôle et puis de voir un petit peu dans le monde entier comment les choses commençaient à évoluer au début des années 2000. On est passé aussi, avant cette crise ou ce moment économique, aussi d'une façon de faire du journalisme différente. C'est-à-dire que il y avait toujours ce débat, moi, quand j'étais jeune étudiant, c'est quoi l'information, c'est quoi la communication, etc., comment on fait la différence entre les deux. On est passé d'un journalisme qui, en fait, délivrait son savoir à un journalisme de conversation. On peut pas... C'est toute la vertu, justement, de ce retournement économique de 2015, où on s'est rendu compte que pour effectivement capter... il fallait capter l'intérêt du public.
Il y a une chose qui sont deux choses. Il y a le phénomène de l'audience a changé parce qu'en fait c'est plus local, c'est global. Enfin, à partir du moment où quelqu'un puisse cliquer sur l'internet. Et la deuxième chose qui semblerait changer aussi, c'est entre le paroi de l'écrivain et le publishing, donc celui qui va chercher l'argent. Alors qu'il y avait un paroi, là il y a de fluidité dans ces éléments-là, et on revient sur peut-être dans le temps l'agora dans la conversation, la capacité d'un journaliste de collecter des informations du public aussi.
Oui, non mais pour revenir à ta question, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a plus de fluidité, il y a plus de compréhension des attentes du public. Et pendant des années, il faut avouer qu'on était autiste dans la presse. Les journalistes étaient autistes. Alors, ça crée du très bon journalisme aussi, parfois, très indépendant, très, très incisif. Je vais revenir à ce que c'est que le journalisme, en fait. Le journalisme, dans le monde entier, en dehors de ceux qui sont payés par des pouvoirs et qui sont là pour... l'État ou privé d'ailleurs, mais bon, qui sont là pour servir quelque part la sauce de ces pouvoirs, c'est all the power into account, c'est le quatrième pouvoir. Donc, c'est une mission d'observation et de contrôle du bon fonctionnement de nos sociétés. Ça veut dire informer le public avec de l'investigation, donc c'est le journalisme d'investigation. Et quelque part, c'est le grand métier du journaliste, c'est de faire du journalisme d'investigation. C'est la chose la plus noble. Il y a un journalisme basique, mais qui est aussi, tout aussi fondamental, c'est informer le public sur ce qui se passe, comment le monde évolue et comment le monde autour du public aussi évolue. Il faut vraiment essayer de comprendre comment, où les gens se situent quand ils sont en train de lire un journal. Encore une fois, quand je dis journal, indépendant des plateformes. Est-ce que j'ai un intérêt sur l'information internationale? Est-ce que j'ai un intérêt plutôt sur l'information locale, communautaire, etc. Puis il y a des nouvelles fonctions qui, à mon avis, apparaissent et qui, pour moi, me réjouissent et on en est au début, honnêtement. Donc, c'est aussi ce qui me réjouit, moi, c'est que ce secteur évolue sans arrêt, quoi qu'on en dise. Hein. On n'est vraiment pas à l'ère des dinosaures, on est à l'ère de la réinvention. C'est comment, moi, journaliste, je peux aider mon public à mieux vivre ma vie. Ça, c'est une dimension que le journalisme d'information n'a pas toujours appréhendée. En tout cas, pas aussi consciemment qu'il le fait aujourd'hui. Puis, il y a un autre niveau, donc on en est là, on a trois niveaux. Hein. Investigation, contrôle, quelque part, et alerte. Information du citoyen, basique. Comment je peux aider mon public à mieux vivre la vie individuelle, leur vie individuelle. La quatrième niveau, pour moi, c'est un niveau comment je peux mieux vivre avec les autres autour de moi,
la société,
interaction, etc. Et le dernier niveau, qui est encore le plus subtil et le plus difficile, c'est comment faire en sorte que je peux mieux vivre et collaborer avec mon entourage. Comment je peux faire, moi, en tant qu'individu, comment la presse, comment l'information peut m'aider à trouver quelque part les moyens, les outils, les idées qui me permettent de mieux m'intégrer dans la société qui m'entoure. Donc on parle d'une mission très générale, après une mission plutôt vers l'individu, sa vie quotidienne, de sa famille, de ses proches, etc., de son interaction avec les gens qui l'entourent, de la société, et de son intégration dans la société. Et là, en fait, quand on combine ces cinq dimensions des missions du journalisme telles que moi je les perçois, eh bien, on a vraiment fondamentalement ce que c'est que le journalisme. Le journalisme, il est là pour faire société. Donc, quand je lis un journal, c'est parce que je me sens membre d'une société. Alors, elle peut être française, elle peut être européenne. Moi, je suis plutôt international, donc je me sens plus européen. Elle peut être mondiale, mais en tout cas, elle peut être géographique ou elle peut être thématique. Mais en tout cas, c'est faire société, le vivre ensemble.
Alors, le problème, quelque part, c'est que le journaliste doit être payé. Et il peut être indépendant, il peut appartenir à un groupe. Et qui est le propriétaire du groupe? Et donc, quel est la motivation derrière le groupe, que ce soit l'État ou un groupe privé, et garder l'hégémonie, enfin, ou en tout cas un contrôle de ce qui se dit par le journaliste par rapport à un message et une volonté. Donc il y a cette histoire-là qui reste encore en suspens et un problème, on va dire, parce que c'est un peu opaque pour le citoyen. Ensuite, il y a ce problème de distribution et l'Internet et tout ça qui a changé les modèles de business aussi. Donc, on a plus de subscriptions, comme tu dis aujourd'hui. Et il y a un troisième phénomène, Vincent, qui est cette quête et envie de garder la liberté de l'expression. Et aujourd'hui, on est face aussi à quelque part une révolution, enfin une révolution, pardon, c'est pas le bon mot, mais un tournement dans la démocratie où on voit les extrémités en train d'arriver et donc justement contre vous, quelque part, les médias.
Alors, encore une fois, tout se tient. Le fait qu'encore une fois un éditeur de presse et un journalisme doivent envisager de vivre avec de sa relation avec son lecteur fait qu'il a des obligations nouvelles. Et sa première obligation sur laquelle beaucoup d'éditeurs et beaucoup de journalistes évidemment travaillent, c'est la crédibilité. Donc sur le premier point, sur la propriété des médias, si à un moment donné je veux être je veux remplir mes fonctions de journaliste, je veux avoir une audience. Et en même temps, je veux en vivre, parce que je ne peux pas simplement vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut que, à un moment donné, je puisse, d'une manière ou d'une autre, maintenant on est vraiment dans cette tendance-là, monétiser quelque part ce service. Alors avant, on le monétisait au travers des annonceurs. Les annonceurs n'étaient pas regardants toujours. Certains l'étaient, mais enfin, ils se rendaient vite compte que ça menait à rien. Ils n'étaient pas regardants sur le contenu. Ou en tout cas, certains décidaient de ne pas paraître dans l'humanité s'ils étaient plutôt libéraux et inversement. Mmh. Alors, ce que je veux dire, c'était une relation indirecte. Là maintenant, le journaliste, il est au cœur de cette relation. Pour pouvoir vivre de son métier, pour continuer à faire sa mission, ils sont d'abord dirigés par leur mission. La plupart des journalistes ne sont pas là non plus parce qu'ils vont faire une carrière et ils vont gagner de l'argent. C'est pas un métier dans lequel il y a quelques-uns qui sont bien. On n'y a pas millionnaire en grand journaliste. Donc, la première motivation, c'est d'avoir des lecteurs. Et pour continuer à avoir des lecteurs, compte tenu de la masse d'informations et de l'overload d'informations qu'il y a dans le monde aujourd'hui et des différentes plateformes qui le fournissent, eh ben, il faut effectivement faire valoir sa crédibilité. Et donc, ça crée des obligations. Quand un propriétaire a les mêmes contraintes, puisqu'il a les mêmes contraintes, il faut qu'il fasse vivre sa machine, maison de presse, autour d'une relation où il va inévitablement envisager de monétiser ce contenu, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'il soit crédible. Donc, on est passé quand même aussi… Alors, il y a toujours des pressions. Il y a des propriétaires de médias, on en connaît, je ne vais pas les citer. Il y a des propriétaires de médias privés et publics, et spécialement de grands États mondiaux aujourd'hui, dont on les connaît très bien, que ce soit la Chine ou la Russie, qui sont les deux meilleurs exemples de contrôle de ces organes d'information sous couvert de journalistes professionnels.
L'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, la Chine et l'Iran aussi, donc toutes les quelques régimes dictatoriaux. Exactement. La Hongrie aussi, d'ailleurs, d'une façon plus subtile et peut-être plus indirecte, mais il y a aussi un contrôle d'État. Mais il y a, dans la plupart des pays, même dans ces pays-là, il y a des presses indépendantes. Alors, il y a quelques exceptions près. C'est plus difficile d'en trouver en Arabie Saoudite, mais il n'en existe pas ici.
Bien sûr. Kaïtsin en Chine. Avec Hushuli.
Voilà. Pour être crédible, à un moment donné, si vous êtes un propriétaire, un entrepreneur responsable et que vous avez des équipes de rédaction et que vous avez une responsabilité économique et une responsabilité sociale vis-à-vis de vos employés, vous devez, quelque part, à un moment donné, faire un effort de fournir une information crédible. Je suis peut-être naïf, mais je pense que le public sait très bien reconnaître une bonne information d'une mauvaise information, à terme, pas immédiatement, mais à un moment donné, il y a un effet de bascule. Donc, on a cité ces exemples de manipulation de contenu. Je pourrais aussi citer des exemples, parce que c'est un débat qui a toujours été très, très chaud en France, sur qui contrôle les médias. Il y a des secteurs de la presse, que la presse n'est pas uniforme. Il y a la presse d'information, tu as la presse audiovisuelle, la presse magazine. Donc, je pense que chacun des marchés opère dans des contextes différents. Si on s'intéresse à la presse d'information, alors on va dire, ah oui, mais Lagardère. Mais Lagardère, qu'est-ce qu'il contrôle ? Il contrôle quasiment rien. Et en termes de presse d'information, il a effectivement aujourd'hui des radios. Je n'ai pas l'impression, en écoutant Europe 1 en France, qu'il y a un message de fond sur la puissance du marchand d'armes que pouvait être Lagardère dans le passé. Quand je lis le Figaro, en dehors de certains éléments parfois éruptifs au moment des élections, je n'ai pas l'impression que les pages internationales, que les pages culture ou même les pages politiques du Figaro, même si elles ont une orientation très politique très claire, représentent les intérêts du groupe d'assaut qui contrôle le Figaro. De la même manière, quand je lis Le Monde, qui est contrôlé par Iliade et Berger, enfin les héritiers, et maintenant un investisseur tchèque qui opère dans l'énergie, notamment les énergies fossiles, j'ai pas l'impression qu'il y ait des messages subliminaux quand je lis Le Monde. Donc, à un moment donné, il y a une responsabilité d'un entrepreneur, d'un journaliste, et quand on a des garde-fous bien installés, évidemment, moi j'ai l'avantage de vivre dans une société où ces garde-fous sont sans arrêt rappelés, l'indépendance, notre héritage de la Révolution française, les citoyens, le pluralisme, etc. Donc c'est bien. Je me rends compte que dans beaucoup de pays, c'est pas toujours le cas. Mais encore une fois, l'offre est tellement abondante, il y a tellement de capacité de voir émerger de nouvelles offres d'informations alternatives qui sont crédibles, que même les grandes marques sont toujours susceptibles d'être mises à bas, quoi, d'être décrédibilisées, donc de disparaître tout simplement. Donc voilà, faut rester, faut avoir la tête froide par rapport à cette histoire de contrôle de l'information. Ce qui est important, fondamentalement, c'est de bien préserver le pluralisme de cette information et de sa diversité.
Ce qui me paraît, enfin, qui décrédibilise n'importe qui, c'est l'attachement à l'argent. Et à partir du moment où il y a l'argent dedans, j'ai toujours l'impression qu'il y a la pourriture. Et c'est pas du tout un attaque, évidemment, vis-à-vis du journalisme. C'est si on cherche la crédibilité, si je sens l'argent, j'ai toujours un problème. Et c'est d'autant plus compliqué que vous devez vivre. C'est normal et c'est bien. La difficulté, c'est quand même à quel point je dois traverser le fric pour arriver à vivre et me permettre à faire ce que j'ai besoin de faire.
Mais encore une fois, si tu mets cette notion monétaire et cet argent ou cette manipulation qu'il y aurait au travers du fait de faire du profit autour de l'information, je pense que le public est beaucoup plus mature qu'il ne pouvait l'être il y a encore quelques dizaines d'années, compte tenu de son accès quasiment illimité à des sources d'information très très diverses. Donc, avant, on pouvait faire croire au public que l'information qu'il diffusait, c'était la vraie information et puis qu'il n'avait pas d'autre. Aujourd'hui, alors après, on en revient à des considérations qui touchent plutôt au fonctionnement de nos sociétés. Mais bon, je pense que le public, quand il est éduqué, ça c'est un problème fondamental, quand il est bien éduqué sur notamment ce que c'est que les médias et comment ça fonctionne, il a un libre arbitre beaucoup plus important qu'il ne pouvait l'avoir auparavant. Bon, après, moi je ne vois pas, je suis désolé, hein, je suis peut-être contre le courant par rapport à ta vision des choses, mais je ne vois pas de contradiction entre le fait de vivre de son métier, de vivre bien de son métier et de rester fidèle à ses valeurs.
Je suis pour cette combinaison, Vincent. C'est juste la notion de la crédibilité qui est un problème inhérent dans le business, inhérent dans la politique. Et le pouvoir attaché à l'argent fait qu'il y a systématiquement des déviations. Et c'est ça dont on a, heureusement, dans une population plus éduquée, un peu de cynisme et se dire « alors, je ne peux pas croire en tout ». Moi, je voulais te poser une autre question, Vincent, qui est sur le Wanifra. Vous êtes basé en France. Vous avez donc un contact avec 120 pays. Est-ce que dans les médias du monde entier, la France a une crédibilité pour que tu puisses être basé à Paris? Enfin, par rapport à, je prends l'exemple d'un Wikipédia basé aux États-Unis ou d'autres pays qui ont parfois un reniflement mondialement qui n'est pas si bon, mais il me semble que la France détient une position crédible dans les médias et grâce à ça, Wanifra basé à Paris.
Oui, je pense que c'est vrai. C'est plus difficile à juger pour moi étant français, mais quand j'ai pris mes fonctions et mes équipes étant essentiellement internationales, je n'ai pas de français dans mes équipes, et notamment beaucoup d'anglo-saxons, ils étaient très sensibles au fait de rester en France. Pour eux, ça véhiculait un message très fort.
Et c'est quoi ce message? Parce que je voudrais décortiquer un peu.
Quand le New York Times a décidé de fermer sa rédaction aussi à Paris, ça a été aussi un message difficile à accepter pour les gens. Je pense que c'est peut-être un petit peu passé, un petit peu obsolète, l'héritage, encore une fois, de notre grande révolution citoyenne, que ce soit 1789, 48, de grandes figures politiques, de gens comme, je sais pas, René Cassin, Déclaration universelle des droits de l'homme, après-guerre. C'est certainement lié à ça. Je pense que ça a tendance à être un peu plus obsolète aujourd'hui, même si c'est encore très, très important, mais il y a d'autres pays qui véhiculent cette notion. Puis il y a sans doute aussi une partie de rêve par rapport au mode de vie français, au fait qu'on vit dans un pays qui est très sensible et qui est très prompt à protester, beaucoup plus que n'importe quel autre pays, je pense, dans le monde. Il faut clairement dire, quand on voit un petit peu les études sociales sur notamment la relation de confiance dans la société, les Français sont des gens qui ont tendance à gueuler plus facilement que la moyenne et donc à faire valoir leur voix. Donc peut-être qu'il y a un mélange en fait historique et un mélange aussi culturel et social qui justifie cette position. Mais on n'est pas uniquement Français. Alors, on a été créé en France parce que d'abord, c'était un résistant de la première heure qui a créé cette fédération en 1948, cofondateur du Parisien, un entrepreneur, mais en même temps un journaliste, mais un homme de conviction et un résistant qui était aussi très cosmopolite, hein, qui a pris son bâton de berger et qui a décidé qu'il fallait créer une communauté et un effort collectif au sein des éditeurs de presse pour reconstruire ce qui avait été détruit par le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Et les puissances d'argent, puisque là, on parlait aussi des maîtres de forge qui contrôlaient la presse dans les années 30. Donc, eux, ils voulaient mettre, voilà, ils voulaient repartir à zéro. Et pour repartir à zéro, ils se sont dit, on va le faire collectivement parce que plus on est autour de la table, plus on aura de chances de trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui, plus on aura aussi de capacité à définir l'éthique de notre métier, définir les lignes rouges à ne pas dépasser et servir de force d'émulation sur l'ensemble de nos confrères dans le monde. Donc, c'est devenu très rapidement une fédération internationale d'éditeurs et notamment d'associations locales. C'était extraordinaire parce que ses fondateurs, il faut se remettre dans les années 50, prenaient leurs moyens de transport, ils allaient recruter des éditeurs en Inde. On a eu des Japonais qui sont très très vite rejoints la fédération, comme quoi aussi il fallait oublier le passé. Les Allemands ont rejoint très vite aussi l'association, les Américains, etc. Simplement pour la petite histoire, ça c'est la création donc, de cette association 48, mais WANIFRA c'est aussi la combinaison de différentes institutions et la crédibilité porte toujours, donc tu parlais de la crédibilité de la France et du message que ça pouvait porter d'être une association française qui parle de liberté de la presse, de la même manière que Reporters sans frontières, qui est une organisation beaucoup plus activiste que la nôtre, mais qui opère dans les mêmes milieux. Je dis activiste parce qu'elle représente des individus, nous représentons des institutions et des entrepreneurs. Donc, on n'a pas toujours les mêmes missions, mais on a le même message d'indépendance et de défense des droits de la presse et des journalistes, et basé également en France. Dans les années 60, on a un autre élément de crédibilité qui s'est ajouté à cette base, c'est la création d'une association plutôt orientée sur les problématiques technologiques, sur laquelle on pourrait peut-être revenir, mais enfin, je ne vais pas trop parler de cette histoire, on n'aura peut-être pas le temps. Et pourquoi l'Allemagne ? Ça a été créé en Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le pays de l'ingénierie. Et donc, c'est clair que nous, on a bénéficié aussi de cette crédibilité allemande quand on a développé nos activités de conseil, d'accompagnement sur ce que c'est que la bonne technologie qui nous permet de gérer les entreprises de façon sérieuse et efficace. Et aujourd'hui, ça joue encore beaucoup. Beaucoup de pays à l'international sont sensibles au fait que WANIFRA est une association qui, pour certains, est considérée comme aussi allemande, parce qu'on a cette branche technologique qui est basée en Allemagne, puisque le groupe de mes équipes, en fait, est en Allemagne.
Une chose est certaine, pour moi, le fait que c'est en France, c'est en Europe. En Europe, on a besoin de collaborer pour survivre. C'est-à-dire, il y a des marchés qui sont à part entière, qui marchent, mais dans les médias, ce que je ressens, c'est cette fibre de besoin de partage, malgré le fait qu'on peut ne pas aimer l'équipe de foot de tel et tel pays, machin truc, mais qu'il y a déjà une espèce de, alors que, bon, compliqué, mais cette notion de besoin de collaborer. Et je voulais souligner aussi l'autre, Philippe Herzberg m'a fait découvrir dans les coulisses, je suppose que tu connais Philippe, le Magnum Photo. Et encore une fois, là, dans les médias, basés à Paris, international, l'éthique, les principes du photojournalisme. Et c'est quand même mondialement reconnu comme étant ça. Ouais. Alors, donc voilà, juste, je voulais avoir ton opinion, mais dans les minutes qui nous restent, je voulais parler aussi du GAFA. Donc, Google, Apple, Facebook et Amazon. Enfin, moins Amazon, on va dire, sauf que Washington Post. Quelle est la position de WANIFRA par rapport aux médias sociaux et aux GAFA de manière générale, parce qu'évidemment ils ont fait partie de la disruption totale des médias?
Alors, il faut savoir que nous, on est une organisation qu'on appelle en anglais multi-stakeholders, donc on a des adhérents qui viennent de différents horizons. Nous servons d'abord les intérêts de nos adhérents éditeurs de presse, mais nous associons à ce travail toute la chaîne industrielle, économique qui les entoure. Donc, on a également des prestataires technologiques et des prestataires de services qui sont adhérents de WANIFRA, parce que la coexistence et la bonne coexistence d'un éditeur dans un écosystème technologique ou économique est fondamentale. C'est aussi l'histoire de la collaboration. C'est une collaboration multidisciplinaire, on va dire. Et je suis très sensible à ça, moi, en tant que dirigeant de cette association. Et je marque bout sur, effectivement, ce principe qu'on ne peut pas avancer dans la vie si on reste isolé. Tu le disais toi-même, mais ça veut dire qu'aussi, on doit aussi s'ouvrir au monde extérieur. Donc, nous avons, dans nos adhérents, des prestataires technologiques, industriels, qui sont et de services, notamment Google, Facebook, sont adhérents de Wanifra. Ils n'ont pas de droit de vote dans l'Assemblée générale, mais ils participent du mouvement. Et moi, ce que je dis à mes éditeurs, c'est que oui, nous avons, et je prends la parole pour manifester nos désaccords vis-à-vis de Google, Facebook, les derniers, les plus récents, étant leur position très surprenante sur les droits voisins. Donc la directive européenne qui est passée l'année dernière et sa transposition dans le droit français. Bon, d'un point de vue là je parle du point de vue des éditeurs et quelqu'un qui travaille dans la presse, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça est une autre aussi d'ailleurs dimension très très française des choses, mais qui va peut-être être pair aussi avec le respect de l'indépendance, de la liberté, etc. Donc on a manifesté notre désaccord et notre surprise et ils n'ont pas apprécié, mais ils sont restés membres de Wanifra. Donc quand on a quelque chose à dire, on le dit, mais on a besoin. Enfin, je veux dire, on peut pas. Je vais peut-être. C'est un petit peu à la. C'est Aron, quoi. Raymond Aron, qui était très sensible à. Il faut pas ignorer les faits. Et le fait est aujourd'hui que ces grandes plateformes font partie de notre vie, font partie de la vie de nos communautés, de nos audiences, de nos lecteurs. Ils sont un modèle économique qui est très hostile au modèle économique de mes entreprises, puisqu'évidemment. Ils construisent leur modèle sur la publicité. Encore une fois, on en revient toujours au même problème, hein, du modèle économique de la presse, et qu'ils ont réussi à mettre en place effectivement des mécaniques qui ont ravagé le modèle de la presse traditionnelle. Mais bon, il y a des solutions de retournement. Comme je le disais, aujourd'hui, quand on voit des taux de progression en termes de vente de contenu numérique et de vente de contenu journalistique numérique, avec toutes les contraintes positives que ça entraîne vis-à-vis de la relation du lecteur, de la satisfaction, de la crédibilité de l'information, de la nécessité de servir bien son audience, il y a des voies de sortie. On n'est pas sorti de l'ornière, mais en tout cas, ça progresse bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Google, Facebook, Apple et les autres, les GAFAM? Encore une fois, on défend nos valeurs, nos principes d'indépendance. Ce sont des mécaniques qui sont elles-mêmes construites sur la nécessité d'être monopolistique. Alors, ils ont un message très positif en disant on organise l'information dans le monde.
On est le flux.
Et on est les seuls à le faire. Ça, il y a quelque chose qui, à un moment donné, pose problème. Mais toute leur mécanique et toute leur stratégie est liée à ça. C'est la stratégie des grands groupes qui sont nés, enfin, des grands groupes. Qui sont nés des mouvements libertariens des années 70 en Californie. C'est inscrit dans leur gène. Je pense
ils sont basés là-bas. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, y a une confrontation d'intérêts. Nous, on défend une information plurielle, diverse. Eux défendent un modèle unique. Et en plus, ils vont sur les territoires économiques sur lesquels on avait bâti nos modèles économiques, nous. Donc forcément, ça crée des frictions fondamentales. Et par ailleurs, on ne peut pas ignorer le fait qu'ils sont là et qu'il faut faire avec. Donc, on travaille avec eux. Je suis clair par rapport à ça. Moi, tant que ça sert à l'intérêt de la transformation culturelle, organisationnelle de nos entreprises de presse, elles en ont beaucoup besoin. Je fais appel à leur soutien. Alors, que certains me disent, oui, mais bon, ils servent de vous pour blanchir un petit peu leur mauvaise réputation. Leur mauvaise réputation dans le secteur, elle est faite. En ce qui concerne les éditeurs, c'est clair. Pas tous, mais enfin, la plupart sont bien conscients qu'on en est là aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau modèle économique. Mais encore une fois, on ne va pas blâmer un concurrent parce qu'il est meilleur que vous, qu'il a une autre façon de faire son métier que vous. C'est une réalité, il faut l'accepter, et à partir du moment où on l'accepte, on arrive à naviguer entre confrontation et collaboration. C'est ce qu'on appelle le principe de frenemies. Des friends, mais qui sont aussi des enemies. Et moi, c'est la manière dont je travaille avec Google, et ils le comprennent. Et je fais en sorte, après, et je pense que les éditeurs doivent faire la même chose, c'est qu'à un moment donné, c'est une question de dépendance. Parce que là, on finit par être peut-être potentiellement dépendant d'un acteur qui va orienter un petit peu votre liberté d'action. Donc, il faut absolument, nous, en tant qu'organisation internationale indépendante, mais également nos adhérents et nos éditeurs de presse, continuer à travailler sur la diversification de leur modèle économique. On ne peut pas vivre que de la publicité. On ne peut pas vivre que de la monétisation de ces contenus. Il faut mettre en œuvre d'autres modèles économiques divers de façon à alléger sa dépendance vis-à-vis d'une ou autre source de revenus. Voilà.
Alors, dernière question rapide, enfin j'espère rapide, c'est sur les médias du monde entier, est-ce que se définit un modèle qui a l'air d'être celui de l'avenir? Selon toi, ce serait lequel?
On en est encore un peu, c'est un peu trop tôt pour le dire. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il est clair que la presse locale souffre énormément parce que d'abord, elle n'a pas un accès au capital facile. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont miser sur des titres d'information locale. Et ça pose un vrai problème sur l'ensemble de l'écosystème, y compris les grandes marques internationales ou nationales. Je veux dire, c'est la puissance des marques internationales est ici aussi de la richesse du terreau dans lequel elles opèrent. Et plus il y a de petites marques, plus il y a une information plurielle et diverse, plus ça sert les intérêts de l'information au sens large, de la crédibilité de l'information et de tout ce qui s'ensuit. Donc l'accès au capital pose un problème pour une bonne partie de nos populations d'entrepreneurs et d'éditeurs, et on en voit beaucoup qui ferment la porte et qui vont fermer, à mon avis, dans les prochaines mois, accélérées par la crise du Covid-19, c'est très clair. Ça se passe de façon différente dans tous les pays du monde. Les Américains ont une tradition de jouer au Monopoly avec des entreprises de presse, c'est assez historique. Ça s'est accéléré ces deux dernières années, notamment une énorme consolidation du marché de la presse locale et métropolitaine américaine et la disparition de centaines de titres de presse locale. Bon, maintenant, on parle de désert d'information aux États-Unis, suppression de postes journalistiques et des méthodes industrielles et capitalistiques très douteuse, puisqu'en fait, il s'agit grosso modo de réduire les coûts maximum pour pouvoir revendre le bébé au meilleur offrant un peu plus tard. Enfin, bon, ça, c'est la financiarisation quelque part de notre économie qui touche aussi la presse. On n'en est pas là en Europe aujourd'hui encore, heureusement, mais c'est clair qu'on va avancer vers un phénomène de consolidation et il n'y a pas aujourd'hui de modèle alternatif qui permette effectivement la reconstitution d'un territoire, d'un écosystème économiquement suffisamment attractif pour attirer des investisseurs. Donc ça pose un vrai problème aujourd'hui.
On n'est pas encore sorti de l'auberge, comme tu disais tout à l'heure. Je voulais juste terminer sur pour moi, tirer mon chapeau à ce que tu fais. Je pense que le fait que tu es français n'est pas anodin. Formidable d'être international. Moi, je lis avec le journalisme l'esprit critique. Et je pense que le pays au monde qui est le fleurion de l'esprit critique, c'est quand même la France. Vincent, comment est-ce que quelqu'un peut te suivre, connecter, comprendre mieux ce que fait Wanifra et voilà, suivre et même éventuellement te supporter plus financièrement ou autrement?
Alors, on a un site, évidemment, internet, one-ifra.org, sur lequel tous nos éditeurs, tous nos partenaires industriels ou institutionnels peuvent suivre l'actualité du secteur. On publie des newsletters. On a à peu près.
Il faudrait que tout le monde s'abonne.
Excuse-moi, des lettres d'information. Donc, on a à peu près 5 ou 6 lettres d'information publiées par Wanifra. Moi-même, j'ai ma propre lettre d'information, mais plutôt une lettre d'information de veille que vous trouverez sur Newsel, notamment. Les réseaux sociaux où nous sommes aussi très présents. Nous vivons, nous, des cotisations que nos adhérents nous donnent. Et donc de la valeur des services que nous leur offrons. Aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas toujours très facile, mais j'aime à penser qu'effectivement, le maintien et d'ailleurs la croissance de nos adhérents, on a plus d'adhérents en 2019 qu'on en avait en 2018, et la tendance, malgré le secteur, même malgré les contextes, est assez favorable en 2020. Donc il y a un besoin effectivement de se réunir collectivement et de pouvoir bénéficier de cette veille que nous proposons. Donc, réseaux sociaux, Internet, webinaires que nous organisons régulièrement. En ce moment, on a lancé depuis donc l'émergence du phénomène du Covid, un certain nombre de webinaires pour trouver des solutions collectives, partager des leçons apprises des pays les plus affectés. Ils sont publics et en accès libre. Et puis, évidemment, on a notre activité d'aide au développement des médias dans les pays les plus sensibles, puisque c'est une partie de notre mission dont on n'a pas parlé. Nous avons aussi une mission d'une ONG avec un statut très particulier. Hein. Je rappelle que WANIFRA est une organisation à but non lucratif, évidemment. Et à ce titre-là, nous recevons des donations de grands donateurs qui nous aident à développer des programmes qui accompagnent les femmes en Afrique, les femmes journalistes au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. WANIFRA est le premier, par exemple. Enfin, je terminerai là-dessus. Mais comme quoi, nos activités peuvent parfois être très diverses, mais c'est la première plateforme aujourd'hui de défense des droits de la femme journaliste dans le monde au travers d'un programme qui s'appelle Women in News. Et ça, c'est financé uniquement par des dons privés et publics de petits, mais surtout de grands donateurs internationaux. Donc ça, si ça vous intéresse, mes coordonnées sont sur le site de WANIFRA.
Je mettrai l'ensemble des bons liens dans les notes et je terminerai par dire que je connais beaucoup de cas, je citerai Maria Ressa, de femmes journalistes et je les trouve d'autant plus courageuses qu'elles doivent lutter contre ce espèce de machisme qui est régnant dans tellement de pays. Donc voilà, je te salue, je salue ce que tu fais Vincent et c'est un plaisir de t'avoir, je te remercie beaucoup.
Merci Minter, à bientôt.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
A stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man,
I'm ready, fire and arrest.
I'm a convinced man, in the arms of a woman. Thank you.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.